France Info.
Voilà la fuite d'eau au Louvre, série noire pour le musée qui a dû fermer hier pendant plusieurs heures. Enfin, elle est bien la boss lady qu'elle prône être, Théodora, 22 ans, et déjà 4 victoires de la musique. Retour sur la cérémonie d'hier soir. Le parquet national antiterroriste saisi et une enquête en cours depuis hier suite à l'attaque sous l'Arc de Triomphe à Paris. Un homme condamné pour terrorisme en 2013 a agressé au couteau des gendarmes avant d'être neutralisé, Farida Noir. L'auteur de l'attaque est mort quelques heures plus tard à l'hôpital.
Jusque tard dans la soirée, les forces de l'ordre ont ceinturé l'Arc de Triomphe. Véhicules de police, fourgons de gendarmerie stationnés, des rubalises empêchent les nombreux touristes de se rendre près de l'édifice. Sous la pluie, certains rebroussent chemin, aussi devant les bouches de métro fermées après cette attaque. Il était 18h hier et comme tous les soirs, des gendarmes sont présents pour raviver la flamme de la tombe du soldat inconnu. Lorsqu'un homme, couteau à la main, se précipite sur les musiciens de la gendarmerie mobile qui participent à la cérémonie, tout de suite, les agents réagissent, tirent sur l'assaillant, des tirs de riposte. Atteint de plusieurs balles, l'homme transporté à l'hôpital est décédé. Âgé de 47 ans, il avait quelques heures avant son attaque téléphoné à la police pour leur annoncer, je cite, « Il ne fallait pas tuer nos femmes et nos enfants. J'arrive sur les champs, on va voir qui va triompher sous l'Arc de Triomphe. »
Emmanuel Macron félicite ces gendarmes qui ont réagi tout de suite. « Nous sommes vigilants à chaque instant », ajoute le chef de l'État. À Lyon, un proche du collectif identitaire Némésis, âgé de 23 ans, se trouve entre la vie et la mort après une altercation jeudi soir entre des militants d'extrême droite et antifascistes. Les faits se sont déroulés en marge d'une conférence à Sciences Po de la députée européenne insoumise Rima Hassan. David Di Giacomo, une enquête est ouverte pour violences aggravées.
Une première altercation éclate entre des membres du collectif identitaire Némésis et des militants antifascistes aux abords de Sciences Po Lyon pendant que se tient la conférence de la députée européenne et les filles Rima Hassan. Un peu plus tard dans la soirée, les secours sont appelés pour s'occuper de deux blessés qui se trouvent dans une ruelle du centre-ville. Quentin, un étudiant de 23 ans, proche du collectif Némésis, a été passé à tabac par une dizaine d'individus armés. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat. Fabien Rajon évoque un lynchage gratuit sur une victime isolée et sans antécédent judiciaire. À ce stade, le parquet de Lyon, lui, se veut plus prudent sur le déroulé des faits. La police est chargée d'établir les circonstances exactes de cette agression qui a déclenché une avalanche de réactions politiques.
Réactions comme celle de Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, appelle à considérer, je cite, les milices d'extrême gauche comme terroristes. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, appelle de son côté à ne pas transformer le débat d'idées en guerre ouverte. Les intempéries en France, avec toujours deux départements en vigilance rouge pour crues ce matin, la Gironde et le Lot-et-Garonne. L'ensemble du pays est même en situation de crue généralisée, prévient l'organisme de surveillance Vigicru. Une vingtaine de départements sont en orange. Prudence également en montagne, dans les Alpes, où le risque d'avalanche est élevé. Hier, 3 personnes sont mortes emportées alors qu'elles se trouvaient dans une zone hors piste à Val d'Isère. Christophe Vincent, sortir des secteurs sécurisés est une pratique qui fait débat, vous l'avez constaté sur place.
Au pied des pistes, Célia réagit comme de nombreux skieurs.
Je pense que c'est à leur risque et péril. S'il y a des instructions, c'est pas pour rien. C'est bête de perdre la vie pour seulement une piste de ski.
Johan et Cédric sont des skieurs confirmés, adeptes du hors-piste, sans pour autant cautionner la sortie fatale des 3 victimes un jour d'alerte rouge.
Ils sont peut-être un petit peu inconscients d'avoir pris la décision de partir en hors-piste, très pentu, avec des barres rocheuses en dessous. Donc une neige très instable et je pense que malheureusement ce ne sera pas la dernière fois que ça arrivera.
Aujourd'hui c'était les bords de piste. On attendait qu'ils ouvrent des endroits où on peut faire les bords de piste sans prendre trop de risques. Chacun est libre de faire ce qu'il entend, mais c'est sûr qu'à chaque fois le résultat c'est qu'il y a quand même des gens qui y restent.
À Val d'Isère, le sujet est sensible et les professionnels ne condamnent pas cette pratique à laquelle beaucoup se livrent. Cédric Bonnevie dirige la régie des pistes.
Ce n'est pas possible d'interdire et ce n'est pas souhaité d'interdire la pratique du hors-piste en France. On ne peut pas tenir la main de tout le monde, à part fermer les domaines skiables, ce qu'on ne souhaite pas et qui n'est pas souhaitable, encore une fois. On espère simplement que chacun restera raisonnable et humble.
Surtout dans les prochains jours où les chutes chutes de neige vont augmenter les risques d'avalanche.
Le reportage de Christophe Vincent à Val d'Isère pour France Info. 9 personnes mises en examen hier dans l'affaire d'escroquerie à la billetterie du Louvre. Une fraude découverte après le casse d'octobre et le vol de bijoux. Mais ce n'est pas tout. La loi des séries continue pour le musée avec une fuite découverte et une salle fermée plusieurs heures hier à Nchepo.
C'est une mauvaise semaine pour le Louvre après l'annonce jeudi d'une fraude à la billetterie qui lui a coûté 10 millions d'euros. Le musée a dû faire face hier à une fuite d'eau dans une salle située à l'entrée du département des peintures dans l'aile Denon. À l'origine du sinistre, un tuyau d'alimentation qui a endommagé le plafond peint en 1819 par Charles Meynier. Selon les premières constatations, l'œuvre présente 2 déchirures et des soulèvements de la couche picturale. Heureusement, les tableaux accrochés dans cette salle des peintures italiennes des 15e et 16e siècle n'ont pas été touchés. Pour les syndicats, cet incident prouve à nouveau la vétusté du bâtiment. Le 26 novembre dernier, une autre fuite d'eau avait endommagé des centaines d'ouvrages de la bibliothèque des antiquités égyptiennes. Et 10 jours auparavant, la galerie Campana avait dû être fermée en urgence en raison d'un risque d'effondrement de plancher.
Les précisions d'Anne Chepo. 5 enquêtes ouvertes par le parquet de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui. En ce qui concerne les laits infantiles contaminés distribués par plusieurs marques comme Nestlé Lactalis ou encore Danone. Le parquet s'est saisi en raison de la multiplicité des plaintes et de la technicité des investigations, précise la procureure Laure Becchio. 4 trophées dans les mains. La chanteuse Théodora, la Boss Lady, a tout raflé hier soir aux 41e victoires de la musique. À 22 ans, elle est à la fois révélation féminine, révélation scène, création audiovisuelle et meilleur album. Yann Bertrand, vous avez suivi ce sacre hier soir.
Méga BBL de Théodora!
4 victoires sur 5 nominations sur un premier album. La scène musicale était acquise à Théodora hier soir.
Et je tiens surtout à remercier aussi tous les projets qui sont passés avant moi, qui ont permis à mon projet d'être mieux compris, les Aya Nakamura, les Tiakola.
La jeune artiste de 22 ans était très attendue au terme d'une année folle et elle n'a pas déçu. Mais que sont ces 22 ans au regard des près de 70 ans de carrière de celle qui a reçu la victoire d'honneur?
Je suis jamais prête, mais je suis prête.
Alors on y va.
Nana Mouskouri, très émue sur scène.
Ce soir, c'est, voilà, le public et la France.
Dans une soirée où les genres musicaux importaient finalement peu, Sam Sauvage a remporté la victoire de la révélation masculine. Charlotte Cardin, celle de l'artiste féminine.
Vraiment, pour une Québécoise qui vient de s'installer à Paris, tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français. Merci beaucoup.
Et This Is, 25 ans de carrière, la victoire de l'artiste masculin, celle du couronnement.
Merci énormément pour cet honneur. Merci beaucoup.
This Is et son album On s'en rappellera pas, sorti en novembre dernier, sur lequel on retrouve aussi Théodora. Le palmarès complet de la soirée est à retrouver sur franceinfo.fr. La France est 4e ce matin au tableau des médailles des Jeux de Milan-Cortina. Un classement qu'elle doit, entre autres, à la dernière récompense en or décrochée hier par Quentin Fillon-Maillet, vainqueur du sprint en biathlon. 7e médaille olympique pour l'athlète tricolore comme un certain Martin Fourcade. Et pour y arriver, Quentin Fillon-Maillet estime que tous les ingrédients étaient réunis hier.
C'est un cocktail, hein. Vous imaginez bien que la victoire, on peut mettre un certain pourcentage sur notre matériel, un certain pourcentage de chance, un certain pourcentage d'entraînement, d'investissement en amont. Puis bien entendu, il y a l'aspect mental qui représente une grosse partie. Donc bah, tout ce cocktail-là, si on a mis les bons ingrédients, eh ben, ça peut espérer une victoire. Après, je suis dépendant de la construction de la course des autres, mais aujourd'hui, voilà, j'ai été plus fort et quel plaisir.
Et aujourd'hui, place aux femmes pour le sprint avec Julia Simon, Justine Brezaz-Boucher, Océane Michelon et Lou Jean Monod au départ. En football, la chute pour le Paris Saint-Germain hier soir, renversé à Rennes. Défaite 3-1 pour le PSG, même score en faveur de Monaco qui recevait Nantes. Aujourd'hui, suite de la 22e journée de Ligue 1 avec la réception par Marseille de Strasbourg, le Paris FC reçoit de son côté Lens à 21h, 6h09 sur France Info. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Jeanne.
La météo avec vous, de la pluie dans l'Est, mais une amélioration sur les régions de l'Ouest.
Enfin, quelques éclaircies qui vont se développer pour quelques heures sur les régions de l'Ouest, mais dans l'Est, le temps va rester encore très nuageux et très instable entre le Nord-Est, le Massif Central et les Pyrénées, avec encore de la pluie, de la neige en montagne et une limite pluie-neige qui va s'abaisser très vite cet après-midi vers 500 mètres. Attention, le risque d'avalanche est encore de 4 sur 5 sur la plupart des massifs alpins et sur les Pyrénées. Le temps s'améliore près de la Méditerranée avec le retour progressif des éclaircies, mais sous de fortes rafales de Mistral et de Tramontane. Et la nouveauté pour aujourd'hui, c'est la forte baisse des températures, températures hivernales avec 3 degrés cet après-midi à Charleville, Mézières, 5 à Lille, 8 à Brest et 13 à Marseille.
Merci Patricia. Charbonnier, on vous retrouve dans 20 minutes.
France Info, le week-end.
Bonjour, c'est Adrien Beck. Je suis ravi de vous retrouver tous les matins, du vendredi au dimanche.
Sur tous les terrains.
Avec nos reporters.
Les décryptages de nos experts.
Le 8-30 France Info.
Les informer.
Pour tout savoir, tout comprendre, dès votre réveil.
Du vendredi au dimanche, le matin, c'est Adrien Beck sur France Info.
Au programme d'ici 6h30 sur France Info, les dégâts de la tempête Nice dans le sud de la France. Nous serons dans l'Hérault. Mais avant ça, on revient sur l'agression au couteau contre des gendarmes hier soir à Paris.
France Info, 6h-7h, Jeanne Mézia.
La scène s'est produite sous l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris. Un homme a agressé au couteau des gendarmes hier soir, puis est décédé de ses blessures après avoir été touché par balle par les militaires. Aurélien Tirard.
Oui, il est 18h quand les gendarmes, comme tous les jours, se préparent à raviver la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Un homme surgit, il tient un couteau dans sa main, il agresse les gendarmes, des musiciens de la gendarmerie mobile. Immédiatement, les agents réagissent, sortent leurs armes et lui tirent dessus à plusieurs reprises, des tirs de riposte. L'individu tombe à terre, il est neutralisé, les gendarmes, eux, ne sont pas blessés. Les tirs, assure le ministre de l'Intérieur, ont été faits dans un cadre légal et réglementaire. Plusieurs heures avant d'agir, l'agresseur a lui d'abord téléphoné à la police pour annoncer son attaque. Avec cette phrase, je cite, « Il ne fallait pas tuer nos femmes et nos enfants. J'arrive sur les champs. On va voir qui va triompher sous l'Arc de Triomphe. » Fin de citation.
Et Aurélien, le profil de l'assaillant interroge un homme condamné en Belgique pour avoir déjà agressé au couteau des policiers.
Oui, et c'est pour ça que la justice antiterroriste se saisit immédiatement de l'enquête. Cet homme de 47 ans a été condamné en 2013 à 17 ans de prison pour avoir poignardé 2 policiers à Bruxelles. À l'époque, il voulait se venger de l'interdiction du port du niqab en Belgique. Pour cela, il avait pris le train depuis Paris direction Bruxelles et arrivé à Molenbeek, quartier populaire de la capitale belge dont était originaire une partie des terroristes du 13 novembre 2015. Cet homme a agressé 3 policiers belges, les blessant légèrement. Depuis sa sortie de prison et son retour en France, cet homme devait pointer tous les matins au commissariat.
Les précisions d'Aurélien Tirard pour France Info. Cette agression pose des questions sur la sécurité dans le pays. Jean-François Ricard, ancien procureur du parquet national antiterroriste, confirme que le risque terroriste est toujours très élevé.
Ça ne me surprend pas vraiment, puisque depuis une bonne dizaine d'années, nous avons affaire régulièrement à ce type d'action, c'est-à-dire des actions qui ont été envisagées depuis longtemps par Daesh, et puis reprises par d'autres, qui invitent les acteurs à agir comme ils l'entendent, avec les moyens du bord, avec leurs voitures, avec des couteaux, pour diffuser le djihad partout où cela est possible. Et c'est exactement ce à quoi on assistait une fois de plus.
Est-ce que ça signifie, Jean-François Ricard, cette attaque, que la menace terroriste est toujours présente et peut-être plus importante qu'on veut bien le penser?
Il y a un certain nombre de signes depuis l'automne qui montrent qu'elle reste à un niveau élevé. Ces signes, c'est la multiplicité des actions commises un peu partout en Europe, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et également en France. Ne l'oublions pas, on a connu d'ailleurs un assassinat de ce type qui est d'ailleurs fait l'objet d'une information à Lyon, qui avait été commis à Lyon et qui fait l'objet d'une information depuis. Donc, il reste à un niveau important et cela est assez cohérent avec le nombre d'individus qui sont partis déjà en Syrie. Nous le savons, on est en présence d'au moins 1500 personnes qui étaient parties et beaucoup plus qui les avaient accompagnés. Nous avons en France, il faut le dire, un niveau de menace qui reste sérieux. C'est une menace endogènes pour l'essentiel, puisque les actions projetées ou les actions téléguidées sont, depuis plusieurs années, beaucoup moins importantes.
Que va chercher peut-être à apprendre le parquet national antiterroriste ? Vous avez parlé d'éventuels donneurs d'ordre. Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y a encore des cellules installées dans différents pays européens et prêtes à passer à l'action ?
Il ne faut absolument pas écarter cela. Il y a trois types d'actions que l'on constate au cours de ces dernières années. Des actions, on pourrait dire, presque spontanées. C'est ce qu'on a appelé avec Gilles Kepel le djihad d'atmosphère. Et puis, à côté, beaucoup plus rarement, des actions projetées avec des individus qui sont envoyés depuis certaines zones. C'était le cas le 13 novembre. Depuis, il n'en a pas eu. Mais nous savons que cela ne peut pas être exclu. Et puis, il y a des actions téléguidées, c'est-à-dire des gens qui sont sur notre territoire ou à proximité en Europe et qui peuvent être incité à agir depuis la Syrie, par exemple, ou depuis d'autres zones. Ces trois types d'opérations sont cumulables et peuvent toujours exister.
Jean-François Ricard, ancien procureur du parquet national antiterroriste, avec Julien Langlais sur France Info. La France en situation de crue généralisée. Suite au passage de la tempête Niels, l'épisode n'est pas du tout terminé, prévenait hier Vigicrue. Ce matin, deux départements sont toujours en vigilance rouge, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 13 sont en orange et les dégâts sont nombreux, bien au-delà. Hier soir, 260 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, comme en Occitanie, où les agents d'Enedis s'activent pour rétablir le courant, comme à 40 dans l'Hérault, où vous vous êtes rendu, Benjamin Elie.
Voilà le bruit des tronçonneuses. On est au milieu des vignobles, à côté d'une forêt de pins. J'ai du mal à compter le nombre d'arbres déracinés. Là, il y en a combien ?
Il vaut mieux compter ceux qui sont debout encore. Hein.
Ouais.
Il y a 90% des arbres qui sont partis. Et tous les pins qu'il y avait autour de la maison sont tombés.
Donc c'est un monsieur qui habite juste à côté ?
Il y a un pavé debout. On a eu peur. C'était violent. Comme si quelqu'un les poussait et ça tombait. Et on était impuissants et on regardait ça avec des yeux terribles. Quoi.
Les élagueurs essayent de faire place nette. Avant que les techniciens d'Enedis puissent intervenir pour rétablir le courant, plusieurs habitations sont concernées. Pas d'électricité depuis...
Depuis jeudi matin.
Avant de faire la réalimentation, on va quand même faire une visite
de l'isolant.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Exactement, oui. Tout le long.
Il y a combien de techniciens d'Enedis mobilisés là, sur cette opération ?
On est trois.
On peut s'éloigner un peu des tronçonneuses, ça vous embête pas ? Bah, je vais vous laisser vous présenter.
Moi, je suis Gilles Pinel, directeur régional Languedoc-Roussillon d'Enedis. Nous avons à peu près 400 techniciens sur le terrain, des renforts qui sont venus d'autres régions et des entreprises prestataires. L'événement est très exceptionnel puisqu'on a eu des forces de vent qui n'étaient pas arrivées depuis plus de 20 ans sur la région.
Combien de foyers ont été privés d'électricité au pic de l'événement météo ?
Sur le Languedoc-Roussillon, il y a eu 110 000 foyers à peu près. Là, on pense qu'il va nous falloir encore plusieurs jours parce que vous pouvez le constater, les conditions d'intervention sont particulièrement délicates. On arrive là où le réseau est cassé parce qu'il a été qu'il a subi des chutes d'arbres, par exemple, ce qui est le cas ici. Et donc, pour pouvoir remettre le courant, pour le coup, il ne suffit pas de faire des manœuvres, mais il faut réaliser des travaux. Et parfois, ces travaux peuvent être très lourds.
Bonjour, madame. Vous habitez le secteur ?
Oui, juste au-dessus, là.
Enedis est à pied d'œuvre, devant nous.
Mais écoutez, c'est super, parce que sans électricité, j'ai une petite maman qui a 88 ans. Je mets la cheminée à la toque, mais bon, c'est sûr, on ne va pas manquer de bois.
On va laisser faire les techniciens,
hein, oui.
Pour vous remettre le courant.
Oui, ne les retardez pas trop.
Ouais. Promis.
Le reportage de Benjamin Elie pour France Info. Attention aussi au risque d'avalanche. La Savoie se trouve dans une situation d'alerte importante, prévient la préfecture. Hier, trois skieurs sont morts dans une avalanche dans un secteur hors piste à Val d'Isère. À suivre sur France Info, une coiffeuse aux airs de Cupidon pour la Saint-Valentin. Reportage juste après, un tour d'actualité.
BMW. Cette année, c'est décidé, vous vous remettez au sport. Et pour une fois, vous allez vous y tenir avec la BMW iX1 Finition M-Sport. Jusqu'au 31 mars, profitez de la BMW iX1 Finition M-Sport à 390€ par mois.
Offre pour une BMW iX1 20 M-Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390€. Opération coup de pouce de 3380€ déduite. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
France Info, 6h-7h.
L'info en une minute à 6h19. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
À la une agression en marge d'une conférence de Rima Hassan à Lyon.
Un jeune de 23 ans proche du collectif identitaire Nemesis est ce matin dans un état désespéré. Selon son avocat, il a été passé à tabac hier par une dizaine de personnes. Ce collectif accuse les militants d'extrême gauche. La justice, elle, reste prudente et ouvre une enquête pour violence aggravée. La France en crue généralisée selon Vigicru. La Gironde, le Lot-et-Garonne toujours en vigilance rouge. 13 départements en orange. À Bergerac, des habitants évacués de façon préventive. Toujours 260 000 foyers privés d'électricité. Aux victoires de la musique, la Boss Lady Théodora remporte 4 récompenses, dont l'album de l'année pour Mega BBL. Le rappeur DC's sacré meilleur artiste, Justice pour le meilleur concert. Des nouvelles chances de médailles françaises aujourd'hui en biathlon et en ski acrobatique avec Perrine Laffont. Un espoir en slalom géant. Aux Jeux de Milan Cortina, la France est 4e. Avec 10 médailles en tout.
France Info. Et si trouver l'amour était aussi simple que de se rendre chez le coiffeur en passant la porte du salon de Karine Lopez à Crisy-Suigne en Seine-et-Marne, vous prenez le risque de tomber amoureux. Oui, parce que depuis 10 ans, en plus de couper des cheveux, la gérante organise pour ses clients des soirées de rencontres pour célibataires. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, Axel Canu, vous êtes allé la rencontrer.
Entre deux coups de ciseaux,
on avait dit quelle heure pour la fixation ? 46.
Karine s'occupe aussi de ceux qui ne viennent pas pour un brushing ou pour un dégradé.
Vous avez frappé à la bonne porte.
Pour s'inscrire et peut-être trouver l'âme sœur, rien de plus simple. D'abord un formulaire.
Voilà, avec des renseignements basiques. Il n'y a rien d'indiscret. Nom, prénom, âge, le signe astrologique, ce que vous aimez faire dans la vie, vos critères souhaités, vos qualités et vos défauts.
Ensuite, un entretien avec Karine.
Pour savoir un petit peu qui vous êtes et ce que vous attendez de la rencontre.
Et pour finir, une soirée de rencontre. Une mécanique bien rodée qu'elle a développée il y a 10 ans suite à une déception amoureuse et depuis...
Vous savez combien vous avez mis de personnes en couple en tout ?
J'ai arrêté de compter à 150. J'ai 5000 filtres de profil quand même. Hein.
Des célibataires de région parisienne et des quatre coins de la France.
C'est très gratifiant en fait de savoir que les gens sont heureux grâce à vous.
C'est aussi de très nombreux souvenirs comme il y a 4 ans.
Ça a été magique cette soirée vraiment parce qu'il y a 3 couples qui se sont formés, dont Sophie et Fabrice.
Consécration pour Karine, le couple de quinquagénaires s'est paxé il y a quelques jours.
Moi je leur dis toujours, hein, vous devenez ma famille en fait.
Alors forcément, elle ne voulait louper ce moment pour rien au monde.
Je vais les filmer en sortant.
Sur le parvis de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés, elle les attend avec impatience.
Alors où sont-ils ?
Et soudain, le visage de la coiffeuse, devenue entremetteuse, s'illumine.
Les voilà !
Sophie en robe mauve à froufrou et Fabrice en chemise couleur myrtille sortent sous les yeux émus de Karine.
C'est un moment pour moi, c'est un vrai cadeau.
Pourquoi c'est important que Karine soit là pour vous ?
Notre Karine. Parce qu'on lui doit tout, on lui doit cet amour. Si on n'était pas venu à sa soirée, on n'en serait pas là.
Sophie venait de se séparer de son mari après 35 ans de mariage. Fabrice voulait avoir une vie amoureuse stable. Ils se sont trouvés grâce à Karine.
Oui, oui, moi je venais pour la première fois. C'était une soirée célibataire. J'y vais parce que je veux passer une bonne soirée.
Quand j'ai aménagé à Grisy, j'ai fait la connaissance de Karine qui me dit « Mais viens, tu vas t'amuser, tu vas voir, ça va être sympa. »
Et puis, bah voilà, la tornade Sophie est arrivée et puis le temps a fait son œuvre et les... Et voilà.
En guise de remerciement, un portrait posé dans le panier garni entre les fleurs et les cadeaux, le portrait de Karine, leur dame de cœur.
Et voilà, et Karine qui aimerait même franchiser son concept dans d'autres salons de coiffure. Reportage signé Axel Canu pour France Info. 6h23 sur France Info, c'est l'heure des experts cinéma avec vous Benjamin Fontaine.
Son costume est au pressing, son nœud papillon déjà repassé en attendant les Césars dans 10 jours. Matteo Maestracci, notre expert ciné, est avec nous. Bonjour Matteo.
Bonjour Benjamin.
Comme chaque samedi, on attend vos conseils sur les sorties de la semaine et vous avez d'abord choisi le film espagnol Les Dimanches de la réalisatrice Alodia Ruiz de Azúa.
Necesito que me des permiso para ir unos días al convento de las vecinas.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
Un film qui nous présente la jeune Aydara, 17 ans, inscrite dans un lycée privé catholique au Pays Basque espagnol. Bonne élève, jeune fille intelligente et appliquée, promise à un parcours universitaire. Elle surprend la majorité des membres de sa famille quand elle leur annonce qu'elle veut entrer au couvent. Et notamment sa tante Maïté, dont elle est très proche et qui se montre franchement hostile à la religion en considérant que sa nièce va gâcher sa vie et son avenir avec ce choix plutôt atypique. Face à ce débat et ces tensions familiales, le film ne choisit pas vraiment son camp pour éviter des personnages trop manichéens et laisser aussi son libre arbitre au personnage principal, Aloda Ruiz de Azua, réalisatrice également connue pour la série choc Kerrer sur les violences conjugales.
C'est intéressant que le spectateur doive penser par lui-même et qu'il doive effectivement trouver ses propres arguments. Moi j'aime penser que le film est humaniste, il essaye de comprendre tous les personnages, leur point de vue, qu'une jeune fille puisse ressentir un appel pour une vocation n'est pas forcément incompatible avec ce que pourraient être des mécanismes religieux qui pourraient s'appuyer sur sa vulnérabilité pour la recruter. On est sur un mécanisme complexe voilà, et qui correspond à ce qu'est l'humain.
Mais tu dois aller à l'université, explorer des choses.
Et sur un sujet très sensible, en particulier dans une Espagne encore très marquée par le poids de l'Église, les dimanches posent chaque étape du choix d'Aynara avec patience et sensibilité dans un film juste, émouvant, qui réussit à éviter une mise en scène trop chargée en symboles religieux et qui domine, avec 13 citations, les nominations au Goya, les Césars espagnols, qui seront décernés le 28 février.
Juste après nos Césars, donc à nous, ce sera le 26 février. Autre histoire de famille, dans un tout autre style, la comédie française LOL 2.0 de Lisa Azuelos, toujours avec Sophie Marceau.
Une mère et sa fille qui se disputent et s'embrassent tendrement, parfois dans la même scène. Vous l'aurez compris, le film est la suite du premier LOL sorti en 2009, qui avait attiré plus de 3,5 millions de spectateurs. La formule est à peu près la même. Les 25-30 ans ont remplacé les ados dans un monde compétitif et individualiste où les jeunes ont encore plus de mal à trouver l'amour, un logement ou du travail. Un film pas sans défaut, notamment ce Paris très Amélie Poulain ou Emily in Paris, totalement irréaliste, sans passant, ni voiture, ni embouteillage. Mais film pas désagréable et à voir surtout pour la prestation dynamique et attachante de Sophie Marceau, terrifiée ici à l'idée d'être bientôt grand-mère. Lisa Azuelos qui assume de faire des films doudou imaginés pour faire du bien aux spectateurs.
Moi, à la base, je voulais être conteuse. C'est-à-dire qu'on peut répéter la même histoire tous les soirs pour s'endormir, pour se sentir en sécurité, pour aller bien. Donc mes films, ils racontent toujours la même chose, de dire ben, dans la famille, on peut se parler. Quand on se parle, c'est un endroit où on est sécurisé. Et quand on est sécurisé dans sa famille, eh ben, on a des ailes pour voler n'importe où.
C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans.
J'ai encore le droit de me sentir chez moi, ici, ou plus du tout ?
Welcome back.
C'est de ça dont sont faits mes films. Ce sentiment, justement, doudou. Moi, pour moi, je suis une doudou girl, quoi. J'ai pas de souci avec ça. Au contraire, et j'aime que mes films soient vus et revus et apportent de la satisfaction pour les jours où on va mal. Les jours où moi, j'allais mal, j'allais au cinéma. Et moi, je donne au public des films pour qu'ils aillent mieux.
Sexy.
Et puis on change encore de genre pour mon dernier conseil, le film Send Help du réalisateur génial Sam Raimi avec Rachel McAdams, une employée introvertie et son patron, beauf et macho, qui se retrouvent seuls sur une île déserte après le crash de leur avion. Idée géniale, thriller trash et jubilatoire et vrai régalade.
Sam Raimi qui a réalisé beaucoup de films Marvel, hein, je crois.
Les trois Spider-Man des années 2000 et le deuxième Doctor Strange.
Il change complètement d'ambiance. Merci beaucoup Mathéo, à la semaine prochaine pour la sortie du nouveau film avec Timothée Chalamet, Marty Suprême.
Et merci à vous Benjamin Fontaine, la météo et le journal à suivre.
La Banque Postale accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Sylvie Cazenave-Perret, présidente de Poisson Packaging, spécialisée dans les emballages recyclables, a intégré la RSE dès 1995. Avec cette démarche, elle a redressé l'entreprise, désormais leader sur son marché. Et aujourd'hui, pour atteindre son engagement à être zéro émission nette en 2028, le groupe s'appuie sur la Banque Postale pour le financement d'une plateforme logistique destinée à optimiser ses flux de transport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur labanquepostale.fr/transition-écologique. Wow.
prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190 euros par mois, sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat final 19 990,62 €. Exemple d'offre LOA 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 mars 2026 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Patricia Charbonnier, il y a une petite amélioration sur l'ouest du pays.
Avec le retour de quelques éclaircies aujourd'hui sur la moitié ouest du pays, mais dans une atmosphère nettement plus fraîche, avec en plus le vent de secteur nord qui va souffler, qui va accentuer la sensation de froid. Et partout ailleurs, on est encore sous les nuages, sous la pluie, sous l'instabilité entre le quart nord-est, le massif central et les Pyrénées. De la pluie, de la neige en montagne, avec une limite pluie-neige qui va s'abaisser très vite cet après-midi vers 500 mètres. Attention, le risque d'avalanche est très marqué sur la plupart des massifs alpins et sur la chaîne pyrénéenne. Et puis du côté de la Méditerranée, c'est nuageux ce matin. On va retrouver des éclaircies dans l'après-midi, mais sous de fortes rafales de Mistral et de Tramontane, avec des températures qui sont en forte baisse. Seulement 3 degrés cet après-midi à Charleville-Mézières, 4 à Nancy, 5 à Lille-et-Paris, 8 degrés à Brest, 10 degrés à Bordeaux, 13 à Marseille et jusqu'à 16 degrés en Corse. Des températures qui seront encore en baisse dans la nuit de samedi à dimanche, avec de fortes gelées quasi généralisées et une dégradation qui va arriver par l'ouest du pays, qui sera précédée sans doute de chute de neige jusqu'en plaine entre le nord, le bassin parisien et le centre-val de Loire.
Merci Patricia Charbonnier et bienvenue si vous ouvrez les yeux et que vous nous rejoignez sur France Info, il est 6h30.
France Info, Jeanne Mézia.
260 000 foyers toujours sans électricité hier soir suite au passage de la tempête Niels. Sur le terrain, les agents d'Enedis font leur maximum pour rétablir la situation. Et souvent, ces pannes de courant sont aussi accompagnées de coupures de réseau. Dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, Mathis Caron, les habitants de Saint-Justin s'impatientent.
Ça n'arrête pas. Depuis mercredi, les habitants du village se rendent tous en mairie pour poser les mêmes questions.
C'est quand ? Combien de temps ? Quand, combien de temps ? Est-ce que vous avez une idée de... C'est le palmarès des trois questions qui nous sont posées.
Philippe Latry, le maire de Saint-Justin.
Les contraintes et les inconvénients au niveau des foyers, ça commence à se faire ressentir. Le chauffage, faire à manger, l'eau chaude. Donc c'est des visites, beaucoup de terrain.
Devant le préfet et les représentants d'Enedis en visite hier, il vide son sac.
Il y a quand même des parcs de véhicules importants dans les entreprises. On ne peut pas envoyer des mecs. On est dans le noir complet. Quoi. Parce que communication, plus rien.
Oui. Les deux premiers jours, franchement, on est en situation de crise. J'ai dit à plein de maires, ceux qui pouvaient me joindre, je prends même pas votre urgence, je prends les routes, les EHPAD et les malades au risque vitaux. Enfin, franchement.
En attendant le retour de l'électricité, les habitants s'entraident et tentent de trouver des solutions.
On vit dans le noir, on ne peut pas ouvrir les volets. Les gentils voisins vont m'ouvrir pour avoir un peu de jour. Ils vont brancher un groupe à la maison et on pourra ouvrir. Et après, on a de la famille sur Mont-de-Marsan, donc si besoin, on peut aller manger, se doucher. Voilà.
Une poignée de Saint-Justinois s'est équipée de générateurs après le passage de la tempête Klaus en 2009.
Un reportage de Mathis Caron, ici Gascogne pour France Info. Ce matin, deux départements sont toujours en vigilance rouge pour crue, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Vigicrue alerte tout le pays étant crue généralisée. 13 départements sont toujours classés orange. Le parquet antiterroriste saisi à Paris après l'attaque au couteau hier soir d'un homme contre des gendarmes près de l'Arc de Triomphe. Les agents ont riposté par des tirs. L'assaillant est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Cet homme de 47 ans avait déjà été condamné en 2013 pour terrorisme. Une autre agression à Lyon avant-hier, celle d'un jeune de 23 ans proche du collectif identitaire Némésis. Il est toujours entre la vie et la mort. L'altercation s'est produite en marge d'une conférence à Sciences Po de Rima Hassan. Une enquête pour violences aggravées est ouverte et doit déterminer les circonstances de cette agression. Alors que Némésis accuse des militants d'extrême gauche d'en être à l'origine, Audrey Tison, l'affaire suscite de nombreuses réactions dans le monde politique.
Une violence insupportable, ce sont les mots du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui lance un appel au calme et à ne pas transformer le débat d'idées en guerre ouverte. Tandis que le Rassemblement national se montre particulièrement virulent, Marine Le Pen appelle à considérer les milices d'extrême gauche comme des terroristes. Jordan Bardella réclame des condamnations exemplaires et la dissolution effective de la Jeune Garde, mouvement antifasciste qui serait en cause d'après lui. Bruno Retailleau pour Les Républicains va dans le même sens. Il dénonce, je cite, « l'extrême violence qui règne dans les satellites qui gravitent autour de LFI ». De son côté, la France Insoumise se défend. LFI n'est en aucun cas impliquée dans ces affrontements, assure Rima Hassan. L'eurodéputée condamne, elle aussi, des faits extrêmement graves et inacceptables.
Audrey Tison, service politique de France Info. L'astronaute française Sophie Adnaud, toujours en route pour la station spatiale internationale. Elle doit arriver vers 21h pour une mission de 8 mois avec ses 3 coéquipiers. Enfin, les victoires de la musique. Hier soir, 41e cérémonie et un nom à retenir. Théodora, la chanteuse de 22 ans, a remporté 4 trophées sur ses 5 nominations. Parmi les autres vainqueurs, Charlotte Cardin, la Québécoise, sacrée artiste féminine. Voilà le titre « Tant pis pour elle » interprété par Charlotte Cardin hier à la scène musicale. This is, et lui, artiste masculin, on l'entendra dans les prochaines minutes. 6h34, voici les sports.
France Info Sport avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Rendez-vous sur FreePro.com.
Et on prend la direction de l'Italie et des Jeux de Milan Cortina avec à 10h ce matin le slalom géant. Messieurs, en ski alpin, c'est à Bormio que ça se passe avec 2 Français en lice, mais aussi un athlète béninois qui sera sur la ligne de départ. Tout un symbole puisque c'est la première fois que le Bénin participe aux Jeux d'hiver. Fabrice Abgral, vous nous présentez ce jeune homme de 21 ans.
Il s'appelle Nathan Chibozo. Il est né à Paris d'une mère togolaise et d'un père béninois. Il habite aux Deux Alpes depuis son plus jeune âge, depuis que ses parents en vacances ont découvert la station iséroise. Et c'est là que Nathan Chibozo a appris à skier, que cet étudiant en commerce et marketing à Albertville a fait du ski une vocation et que ce béninois qui fêtera demain ses 22 ans a gagné sa place au jeu en réalisant les quotas imposés par le CIO. Et le rêve est devenu réalité.
Croire en ses rêves est possible en travaillant, en s'impliquant dans son projet, et que d'où on vient, on peut faire ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de limite. Et bien sûr, ça reste une grande fierté et un peu un devoir à accomplir de pouvoir refaire une bonne performance.
Et une bonne performance pour Nathan Chibozo, ce serait simplement et modestement de finir la course.
J'aimerais bien reproduire le ski que je produis en ce moment à l'entraînement, donc un ski assez posé, relâché, mais pas pour autant sortir, quoi. J'aimerais bien arriver en bas pour pouvoir représenter un maximum ma nation.
Thibaut Paoli entraîne Nathan Chibozo depuis 3 ans. Il a toujours été impressionné par la motivation de ce skieur singulier, complètement investi dans son projet.
C'est un jeune qui est plein d'ambition et qui s'implique énormément dans son projet tout au long de l'année, que ce soit en préparation physique, où il a des qualités qui sont très intéressantes, mais aussi sur les skis. C'est un gars qui est rigoureux et surtout passionné de ce qu'il fait. Alors bien sûr, même si sur les compétitions internationales comme ici, l'écart avec les top skieurs mondiaux, il est encore assez important. Nathan, il a vraiment à cœur de montrer le maximum de ce qu'il sait faire. Et pour ça, il se donne les moyens au quotidien pour atteindre cet objectif.
La présence de Nathan Chibozo peut paraître saugrenue, mais sa participation repose sur la volonté du CIO d'ouvrir les Jeux Olympiques à des pays dits non-hivernaux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aux côtés de Nathan Chibozo, 2 autres skieurs africains seront ce matin au départ du géant. Mathieu Gravier représentera Madagascar et Issa Labordi-Péré défendra les couleurs du Kenya.
Et on les retrouve à 10h ce matin. Les Jeux qui sont aussi source de déception parfois. C'est le cas pour le snowboard cross féminin, avec aucune française en finale alors que les bleus en lice visaient le triplé. Chloé Trespech, double médaillée olympique, qui était en finale des 3 dernières éditions, a été éliminée en quart de finale et partage sa tristesse.
Ouais, c'est dur, je m'étais pas autant entraînée pour ça. En une minute, c'est tout s'arrête. Et rendez-vous dans 4 ans si j'y suis, donc... C'est un peu dur, il n'y a pas de française en finale en plus, donc ça réconforte même pas l'équipe, le staff qui est hyper impliqué, qui permet qu'on soit compétitif à chaque compète. Donc cruel.
Ta course, comment tu l'analyses? Le départ est un peu lent et puis finalement tu réussis un comeback, on te voit revenir dans les écrans et tout, et puis finalement pas assez quoi, trop juste.
Je fais pas un bon départ, c'est un peu ça m'arrive très souvent de pas faire des bons départs, c'est vraiment pas mon point fort, mais il y avait vraiment la place pour revenir, pour reconstruire, mais je recolle le paquet dans un virage où c'est pas l'idéal pour doubler, j'y vais quand même. Je suis coincée sur une ligne qui a pas été glissée entre le deux virages, donc forcément je suis pas sur la ligne idéale et les filles y sont, donc ça fait une première différence. Et puis après en bas ça se joue à rien, donc je sais pas, je vais analyser ça avec les coachs, mais ouais, c'est un peu dur.
Cette piste, elle était pas faite pour vous, pour votre type de course à vous quatre?
Elle était pas très rapide et je savais que c'était pas la piste rêvée pour moi, mais après on a vraiment travaillé pour être des athlètes polyvalents, donc c'était à nous de trouver les solutions, et pour être rapide aujourd'hui ça se joue à rien, c'est dur de dire, mais il y avait la place pour faire quelque chose, mais voilà, c'est une multitude de petits détails, c'est dur.
Chloé Trespech avec Emma Sarango. D'ici 7h sur France Info, le portrait d'actu de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, en prison pour complicité de trafic sexuel de mineurs. Mais avant ça, on parle de musique, quelques heures après les 41e victoires.
France Info, 6h-7h, Jeanne Mézia.
C'est un surnom qu'elle porte à merveille. La Boss Lady a tout raflé hier aux Victoires de la musique. 4 récompenses pour la chanteuse de 22 ans. Théodora, l'un de ses tubes qu'on entend en ce moment, Mélodrama, apparaît sur l'album d'un autre artiste récompensé hier. C'est This Is, sacré artiste masculin de l'année pour son album On s'en rappellera pas. Yann Bertrand a pu l'interroger durant la cérémonie. Et en un mot est mis en avant par le chanteur, la diversité.
C'est un mot qu'on aime bien, après c'est un mot qui a été galvaudé depuis longtemps dans la politique et dans la société civile depuis très longtemps, puisqu'on parle de diversité, c'est souvent des mots magiques. Dans le cadre de la musique, c'est magnifique et heureusement que ça passe par là. Mais voilà, c'est un mot qu'on aimerait, qui soit beaucoup plus prégnant, concret, mais c'est une bataille de tous les jours et je fais partie des gens qui se battent pour ça, même à travers moi, ma musique, mes choix. Rien que la diversité, moi-même, dans les choix musicaux que je fais, les emprunts que je fais, et puis au-delà de la musique, le fait de mélanger aussi la littérature, le cinéma, c'est important d'être aussi divers dans ses choix et dans ses pensées aussi, c'est important. Parce que c'est des choses qui enferment, et puis c'est tellement mouvant. Là, on parle de diversité aujourd'hui aux Victoires de la musique, mais c'est parce que la manière dont on écoute la musique a changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des cases extrêmement précises, enfin qui se voulaient précises, mais qui n'étaient pas si précises que ça. Moi, la première victoire que j'ai eue, c'était en 2006, si je dis pas de bêtises, et c'était dans la catégorie rap, raga, musique du monde. Et il faudrait déjà m'expliquer ce qu'est la musique du monde. C'est permis de rêver autrement aujourd'hui en musique, parce que tu vois des artistes, j'en fais partie, qui ont pu changer, qui peuvent, moi je vais sur du rock, sur du ci, sur du ça, et cette liberté-là aujourd'hui elle est beaucoup moins vu comme quelque chose de bizarre. J'ai écrit mes névroses de quarantenaire, mes histoires d'amour, mes errances, et puis moi vraiment je racontais ma vie quoi. Et puis ça a plu à un public jeune parce que l'amour c'est universel, et que moi je raconte mes peines de cœur à 40 ans, mais à 20 ans, à 15 ans tu peux les comprendre aussi, tu les adaptes en fonction de ta vie à toi. Mais j'observe pas ça, c'est les gens qui viennent me dire ah ouais il y avait ci, il y avait ça. Moi, je propage juste ce que je ressens, je fais de la bonne musique avec les gens et je calcule pas à qui ça va toucher. Ce serait bizarre pour moi de calculer avant et de faire des calculs, ça va toucher tel, tel. C'est de la publicité, moi je fais pas de la publicité, je fais de la musique.
Toute une histoire, accroche-toi si t'es pas taille. Je t'ai largué, mets-toi dans time. De toute façon, cette vie, c'est tcha 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 tcha.
Le le chanteur This Is qui répondait aux questions de Yann Bertrand et la chanson Try, Try, Try de This Is en feat avec Kid Cudi qu'on retrouve sur l'album On s'en rappellera pas. Dans un instant, dans le choix de France Info, on s'intéresse à Cuba et à la crise du carburant. Mais avant ça, l'essentiel de l'info.
BMW. Cette année, c'est décidé, vous vous remettez au sport. Et pour une fois, vous allez vous y tenir avec la BMW iX1 Finition M Sport. Jusqu'au 31 mars, profitez de la BMW iX1 Finition M Sport à 390 euros par mois.
Offre pour une BMW iX1 20 M Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 euros. Opération coup de pouce de 3380 euros déduite. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Info, 6h-7h.
6h44 sur France Info. L'info en une minute, Sarah Ders à la une. Un gendarme attaqué hier à l'Arc de Triomphe à Paris.
Son agresseur présumé est mort, tué par les forces de l'ordre, le parquet antiterroriste saisi. L'assaillant était sorti de prison il y a 2 mois où il purgeait une peine de 17 ans pour avoir poignardé 2 policiers belges. En pleine négociation sur le nucléaire, Donald Trump évoque désormais un renversement du pouvoir en Iran. Le président américain confirme l'envoi très bientôt d'un 2e porte-avions dans la région. Le risque d'avalanche toujours très élevé en Savoie. 3 skieurs sont morts hier emportés par une coulée de neige dans un secteur hors piste à Val d'Isère. La lourde défaite du PSG hier face à Rennes, 3-1 en Ligue 1 de football, 22e journée. 3 matchs aujourd'hui, 17h Marseille-Strasbourg, 19h Lille-Brest et 21h05 Paris FC Lens qui peut reprendre la tête du classement.
France Info. La crise à Cuba s'intensifie alors que les États-Unis empêchent les livraisons de pétrole sur l'île, ce qui entraîne de lourdes conséquences pour la population. On s'y intéresse ce matin dans le choix de France Info. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Le Mexique a été le premier à voler au secours des quelques 9,5 millions d'habitants et a envoyé ce jeudi une première cargaison d'urgence.
Oui, l'information a fait la une de la télévision officielle.
814
tonnes de lait en poudre, de biscuits, de riz, de haricots et de produits d'hygiène arrivés par bateau depuis Mexico.
C'est pas beaucoup, hein, mais si. Je trouve que la présidente de Mexico, elle est forte. C'est grâce à elle qu'on a un petit peu de lumière quand même.
Lucmil Pérez, qui vit en France, revient de la Havane où il a rendu visite à sa famille, très affecté par ce qu'il a vu sur son île.
Mais là, c'est vraiment chaud. À ce niveau-là, c'est normal qu'on dépend des aides humanitaires. Vraiment, c'est chaotique.
Sauf que la marchandise arrivée au port de la Havane ne pourra pas être acheminée dans les zones rurales situées à 600 ou 700 kilomètres. Il n'y a plus assez d'essence. Se rendre chaque jour au travail est déjà un parcours du combattant, car depuis cette semaine, il n'y a quasiment plus de transport public. Le ramassage des poubelles est suspendu, les ordures s'accumulent et les rues restent plongées dans le noir à la nuit tombée. À la maison, les Cubains se remettent à cuisiner au charbon. Daniel, 61 ans, habite le quartier du Vedado dans la capitale. Il possède un générateur et se dit privilégié.
Hier, ils ont coupé le courant de 16h jusqu'à environ 10h du soir. En province, c'est pire. Certaines régions sont privées d'électricité 20h par jour.
La dernière fois que nous avons autant souffert, dit-il, c'était pendant la période spéciale, dans les années 90, juste après l'effondrement du parrain soviétique.
Pendant la période spéciale, les gens avaient de l'argent, mais il n'y avait rien à manger. Maintenant, grâce aux petites entreprises privées, il y a de la nourriture, mais ce qui manque, c'est l'argent. Je te donne un exemple. Une boîte de 30 œufs me coûte 3 000 pesos. Et le salaire d'un retraité ici, à Cuba, c'est environ 1 500 pesos.
Depuis que le gouvernement a décidé de supprimer la double monnaie en plein Covid, l'inflation a explosé. Elle est toujours de 25 à 30% par an. Les Cubains ne s'en sont jamais relevés et l'État n'a plus d'argent pour entretenir ses infrastructures, routes, centrales électriques ou bâtiments publics. Le blocus pétrolier porte le coup de grâce à une économie déjà défaillante. Il y a 3 jours, Angela Elvira a vu tout un immeuble s'écrouler dans sa rue.
Au début, c'est juste un morceau qui est tombé.
Mais ils n'ont pas pu enlever les décombres parce qu'il n'y avait pas de carburant pour faire venir les camions. Il fallait attendre 10, 12, 15, 20 jours. Donc le bâtiment a craqué, puis il s'est effondré. Une deuxième fois, cette fois complètement. Il y a eu 3 morts. Imaginez ce qu'on ressent. Il n'y a que de la tristesse.
Les Nations Unies se disent extrêmement inquiètes. Pour Marta Hurtado, porte-parole du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, la crise énergétique met aussi en danger un droit fondamental, le système de santé.
Les unités de soins intensifs et les services d'urgence sont impactés dans tout le pays. Même chose pour la production, la distribution et le stockage des vaccins et de tous les médicaments sensibles à la chaîne du froid. Les objectifs politiques ne peuvent pas justifier des actions qui vont à l'encontre des droits humains.
Persuadé que la crise finira par faire tomber le régime, Donald Trump menace de droits de douane supplémentaires tous ceux qui se risqueraient à braver son embargo. Inadmissible pour Fernando.
C'est une mesure cruelle envers le peuple cubain, une mesure inhumaine et en même temps irrespectueuse, parce que c'est du chantage sur les pays qui voudraient faire du commerce avec nous. On les empêche quasiment par la force d'envoyer le pétrole dont Cuba a besoin pour son économie.
Face à l'impuissance des États, ce sont les ONG qui prennent le relais. La coalition internationale qui avait organisé l'an dernier la flottille humanitaire pour Gaza avec l'objectif de briser le blocus israélien prévoit de faire la même chose à Cuba le mois prochain.
Le choix de France Info signé Isabelle Labérie, retrouvée sur franceinfo.fr. Dans les prochaines minutes, le billet science de Bill François, le sport rend nos os plus forts. Mais tout de suite, le portrait d'actu. Avec aujourd'hui Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein et fille du mania de la presse Robert Maxwell. Cette femme purge en ce moment une peine de 20 ans de prison, condamnée pour complicité de trafic sexuel de mineurs. Elle a réclamé cette semaine une grâce présidentielle en échange d'informations. Anne Lamotte, vous revenez sur sa vie et notamment sa rencontre avec Jeffrey Epstein.
Elle est grande, elle a de l'allure. Elle porte une jupe longue et un pull noué sur les épaules. Dans ses mains, des livres. C'est Ghislaine Maxwell à Oxford en 1982. À l'époque, elle a 20 ans, elle étudie le français et l'histoire. En regardant les images, on se dit qu'elle a l'air bien sage et sérieuse. D'ailleurs, elle sort de Marlborough College, l'un des pensionnats privés les plus huppés d'Angleterre. Sauf qu'à Oxford, au début des années 80, Ghislaine Maxwell n'a pas franchement la tête aux études. George Monbiot est un ancien ami. Il est ici dans le documentaire « Qui est Ghislaine Maxwell ?» diffusé sur la chaîne britannique Channel 4.
And there was one set of people in particular.
Il y avait un groupe en particulier qui y allait vraiment à fond.
A lot of alcohol.
Il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de drogues, beaucoup de sexe.
It was pretty wild.
Ils étaient vraiment déjantés. Beaucoup d'entre eux étaient super riches. Et au centre de ce groupe, il y avait entre autres Ghislaine.
Among other people was Ghislaine.
Ghislaine Maxwell a de l'éducation et de l'entre-gens. Étudiante, elle connaît tout le monde, même le prince Andrew, un des fils de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Et tout le monde la connaît. Dans les soirées où elle papillonne tout en bijoux au milieu des smokings, elle amuse beaucoup. Elle adore raconter des blagues salaces. Et parfois, elle sidère. Un soir, à la fin des années 80, dans l'immense manoir familial à Oxford, elle propose un jeu à ses invités. Nicolas Glucksmann en fait partie. Elle se souvient sur Netflix, dans le documentaire « Ghislaine Maxwell, pouvoir, argent et perversion ».
Les hommes devaient se bander les yeux avec des foulards. Les femmes devaient enlever leur haut, leur soutien-gorge, et puis défiler devant les hommes qui devaient caresser leurs seins et deviner à qui ils appartenaient. J'étais très choquée. Les femmes étaient impuissantes et c'était une femme qui invitait les hommes à agresser d'autres femmes.
À ce moment-là, Ghislaine Maxwell n'a sans doute pas peur des conséquences, il n'y en a pas. Mike Maloney, qui s'exprime ici sur Channel 4, a été le photographe de la famille Maxwell.
Elle était complètement pourri gâtée, je pense depuis sa naissance. Un jour, elle m'a dit « N'oubliez pas que je suis la fille chérie de papa ».
I'm daddy's girl.
Le père de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, célèbre homme d'affaires britannique, baron de la presse, un personnage. On le dit grossier, arrogant, brutal, infidèle. À la maison, il aura 9 enfants, il est décrit comme un tyran. Mais pas avec Ghislaine, la petite dernière, sa protégée. Qu'on entend ici à Noël, à l'âge de 5 ans, dans un reportage télé, elle parle déjà de son père. Sur une photo où Robert Maxwell salue la reine Elisabeth II, on voit la jeune Ghislaine à ses côtés. La relation est complexe et les gens s'interrogent. Ils décrivent la fille comme la mascotte ou l'accessoire de son père. Une fille qui fait tout pour continuer à plaire à cet homme tout-puissant qu'elle adore et qu'elle craint peut-être aussi. Notamment lors des fêtes au manoir. Ghislaine Maxwell s'assure que tout le monde est bien servi en champagne, mais pas que. Anne McElvoy, une ancienne amie, raconte sur Channel 4.
Ghislaine would be there, I think, bringing in...
Ghislaine ramenait des amis à elle, beaucoup étaient des filles qui avaient une vingtaine d'années. C'était pour rendre la fête vivante et cool pour les magazines. Et puis Ghislaine présentait quelqu'un à son père. Je ne sais pas s'il y avait une présélection ou si c'est elle qui choisissait, mais je pense que c'était son rôle à elle de choisir. À qui veux-tu parler? Qui t'intéresse? Ça fonctionnait un peu comme dans une cour. C'est comme si elle devait gagner l'amour de son père.
Ghislaine Maxwell finit par travailler pour son père, à New York notamment, où elle s'installe en 1991. Elle a 29 ans. La même année, le corps de Robert Maxwell est retrouvé au large des îles Canaries. Il naviguait sur son yacht, il l'avait baptisé Lady Ghislaine. Il laisse derrière lui une montagne de dettes et une fille désespérée. Que va-t-elle devenir? Comment Ghislaine Maxwell va-t-elle le remplacer? C'est dans la foulée qu'elle croise la route de Jeffrey Epstein.
Ghislaine Maxwell, qui a donc été la compagne et la complice de Jeffrey Epstein. Portrait d'actu signé Anne Lamotte, à réécouter sur l'application Radio France. 6h54, l'heure du billet science. Avec vous, Bill François, bonjour.
Bouger, faire du sport, c'est bon pour la santé, on nous le répète et on en a une nouvelle preuve avec vous, Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Des chercheurs de Hong Kong et du CNRS viennent de comprendre comment l'activité physique solidifie nos os et c'est une bonne nouvelle.
On l'a tous déjà entendu dire, plus on a un mode de vie actif, plus nos os sont solides. C'est qu'à l'intérieur de nos os, les cellules souches de la moelle osseuse fabriquent de l'os ou stockent du gras selon que nous sommes actifs ou non. Mais comment ces cellules savent qu'on est actif pour se décider à renforcer nos os? Ça, jusqu'à présent, personne ne l'avait compris. Et c'est ce que les chercheurs viennent de révéler au mois de janvier.
On aurait donc une sorte de capteur d'activité physique dans nos os?
Exactement. Grâce à des souris comme modèle, les biologistes ont découvert une protéine nommée piezo 1, située à la surface de la moelle osseuse, qui détecte nos mouvements et transmet cette information à la moelle. Quand cette protéine sent l'activité physique, elle pousse les cellules souches de la moelle osseuse à produire de l'os au lieu de stocker du gras. Et quand elle n'est pas là, il se passe le contraire. Les cellules souches vont produire plus de gras et moins d'os. Les chercheurs ont tout simplement décodé comment notre corps convertit le mouvement en os solide.
Est-ce que ça pourrait permettre de créer de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments pour solidifier les os ?
C'est en effet un espoir majeur, car la perte osseuse liée au manque d'exercice est un terrible problème, notamment quand on prend de l'âge. L'ostéoporose affecte des millions de personnes dans le monde et on estime qu'à partir de 50 ans, une femme sur 3 et un homme sur 5 subissent au moins une fracture due à des os fragilisés. La plupart des traitements à ce jour sont basés sur de l'activité physique, mais de nombreuses personnes ne peuvent pas la pratiquer. On pense aux personnes en situation de handicap ou alitées pour une longue durée, par exemple. Mais désormais, on va pouvoir créer des médicaments qui agissent à l'échelle moléculaire pour mimer chimiquement le sport. En faisant croire chimiquement à la protéine piezo 1 qu'on fait de l'exercice, alors qu'on n'en fait pas forcément, pour protéger les os fragiles des personnes qui ne peuvent pas être physiquement actives. La science souhaite donc à cette protéine piezo 1 de rester active pour les gens qui, hélas, ne le peuvent pas, afin que la fragilité osseuse ne fasse plus de vieux os.
Elle est jolie celle-là, bravo Bill François et ses découvertes dans le billet science à retrouver aussi en vidéo sur les réseaux sociaux de France Info.
Et merci Benjamin Fontaine, la météo dans un instant.
À partir de 65 ans, on a plus que jamais envie de
bouger.
Profiter.
S'éclater.
Se dépasser.
Ne laissez pas la pneumonie à pneumocoque vous priver de ces moments de vie. Avec l'âge, votre système immunitaire s'affaiblit. La vaccination et les gestes barrières peuvent vous protéger de conséquences parfois graves. Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes à risque. Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier. Cette campagne d'information est à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer. Wow.
Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190 euros par mois, sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat final 19 990,62 €. Exemple d'offre LOA 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 mars 2026 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Patricia Charbonnier, toujours de la pluie sur les régions de l'Est et un peu de soleil du côté de l'Atlantique.
Une petite amélioration enfin sur les régions de l'Ouest. On retrouve un temps sec aujourd'hui avec quelques éclaircies avant quand même le retour de la pluie dès ce soir sur la Bretagne, alors que dans l'Est et le Sud-Ouest, le temps reste encore bien agité avec de la pluie entre le Grand Est, le Centre-Val de Loire jusqu'au Sud-Ouest, de la neige sur les massifs avec une limite de neige qui va s'abaisser à partir de cet après-midi vers 500 mètres. Et attention, le risque d'avalanche est encore très marqué, de 4 sur 5 sur les massifs alpins et sur la chaîne pyrénéenne. Amélioration également dans la journée près de la Méditerranée. On a encore des averses ce matin, mais là, ce sera au prix de très fortes rafales de Mistral et de Tramontane. Et les températures sont en forte baisse. On repasse en dessous des normales de saison. Température hivernale cet après-midi, 3 degrés à Charleville-Mézières, 4 à Nancy, 5 à Lille et Paris, 6 degrés à Dijon, 11 à Grenoble et un maximum de 16 degrés à Toulon et Ajaccio.
On n'oublie pas son écharpe et ses gants. Alors merci Patricia Charbonnier. Presque 7 heures sur France Info. L'heure de retrouver Adrien Beck pour le 7-10. Bonjour Adrien.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Je les ai gardés d'ailleurs, les écharpes et les gants dans le studio. Non, je plaisante. Ravi de vous retrouver en ce samedi matin, début des vacances scolaires d'hiver. Tiens, du côté d'Amiens, de Reims, de Marseille, de Caen, profitez-en si vous avez la chance d'avoir quelques jours. Mais attention aux caprices du ciel. On en parlait avec vous Patricia il y a quelques secondes. Je vous salue d'ailleurs. Parce que ces caprices du ciel, on va aussi beaucoup les évoquer ce matin. Hein, les conséquences de la tempête Niels dans le sud-ouest, les avalanches dans les Alpes, comment sécuriser les domaines, ça, on en parle dans une dizaine de minutes. Et puis cette information qui nous a frappé ce matin, la France entière ou presque est menacée par les crues, la faute à des pluies abondantes. Ça, vous l'avez sans doute remarqué également, c'est ce que dit Vigicru et on en parle à 8h10. Bref, autant dire Patricia qu'on a du pain sur la planche.